chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la démonologie. C'est la deuxième ou la troisième partie, mais en tout cas, c'est une suite à ce que j'ai déjà fait il y a quelque temps de cela. C'est donc un complément absolument important. C'est l'étude numéro 9 et le thème sera les portes d'entrée. Chers amis, qu'est-ce que une porte d'entrée? La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. J'emploie le terme porte d'entrée pour désigner un péché qui profane le temple. Donc, par cette porte d'entrée ouverte par le péché, les démons peuvent entrer et peuvent ravager notre vie. Chers amis, je crois que trois sortes de péchés seulement entrent dans cette catégorie. Ce sont, premièrement, l'hérédité, deuxièmement, les péchés sexuels, et troisièmement, toute implication dans l'occultisme. Dans mes précédentes études, j'ai présenté en détail de nombreux exemples de portes ouvertes. Je ne vais donc pas répéter ici, maintenant, toutes ces informations. Je veux vous donner brièvement la liste des portes d'entrée les plus courantes et ne décrire rapidement que celles dont je n'ai pas parlé dans mes précédentes études. En premier lieu, il y a donc, on a dit, l'hérédité. Les démons sont reçus par hérédité. C'était mon cas. Il y a environ bientôt 90 ans. Cette réalité est très bien connue dans le monde occulte. Elle est également bien connue dans les religions asiatiques. Voyez-vous, les démons se transmettent ou peuvent se transmettre d'une personne à l'autre par des péchés divers, mais également aussi par des péchés sexuels anormal. Ces péchés comprennent les 8 catégories fondamentales suivantes. Premièrement, la relation sexuelle avec une personne du sexe opposé en dehors du mariage. Donc, on sait que ça s'appelle l'adultère. Deuxièmement, les relations sexuelles avec une personne du même sexe, qu'on appelle aussi l'homosexualité. Troisièmement, l'inceste. Et vous savez ce que ça veut dire. Quatrièmement, les relations sexuelles avec des enfants, la pédophilie, etc. Cinquièmement, les relations sexuelles avec des animaux, incroyable mais vrai, puisque quand j'étais jeune, j'en étais même témoin. Sixièmement, les relations sexuelles avec des démons. Septièmement, le sadomasochisme. Et huitièmement, la pornographie. Voyez-vous, n'importe lequel de ces péchés sexuels permet à des démons de pénétrer dans la personne qui commet ce péché-là. Chez les enfants, l'une des portes d'entrée les plus courantes est représentée par les violences sexuelles. Et elles sont toujours suivies par des expériences sexuelles précoces dans la vie de l'enfant, ainsi violentées, avec un engagement de plus en plus grand dans divers péchés sexuels lorsque l'enfant grandit. Ceci est dû à la présence des démons qui ont pénétré dans l'enfant à un âge précoce. Et je répète, ce fut mon cas par mon père. Donc, toute implication dans l'occultisme est une chose terrible. L'occultisme recouvre une multitude d'activités. Il me faudrait des pages et des pages entières ou on peut dire carrément une dizaine de CD, mais ça a déjà été fait dans le passé, pour en donner une liste complète. Je me contenterai donc de répartir ces activités en un certain nombre de catégories en donnant la liste des problèmes les plus connus. Les Écritures en donnent la liste suivante. Il y a tout d'abord la divination. Ensuite, il y a l'astrologie, c'est la consultation des astres. Troisièmement, il y a la nécromancie et la sorcellerie sous toutes ses formes. Et ensuite, il y a la consultation d'esprits familiers, c'est-à-dire le plus souvent l'invocation des esprits des morts ou les séances spirites. Chers amis, voyez-vous, la divination proprement dite, ça, c'est l'art de chercher à prévoir ou à prédire des événements futurs ou de découvrir des connaissances cachées. La plupart des chrétiens savent que la divination inclut le fait de dire la bonne aventure, mais c'est la seconde partie de la définition ci-dessus que je vais vous donner qui leur cause surtout quelques problèmes. Donc, voici que j'aimerais vous donner une liste des formes les plus communes de divination. Voyons cela donc selon une échelle que je vous ai préparée. Tout d'abord, la lecture des lignes de la main, la chiromancie, la lecture dans une boule de cristal, la recherche des sources et des courants d'eau, la radiesthésie par le pendule, la radiesthésie par une baguette, la consultation des tarots ou des cartes, la lecture des feuilles de thé ou de marc de café, la numérologie, l'examen des entrailles d'animaux, comme dans la religion appelée Santeria. Il existe cependant des formes modernes de divination qui sont présentées sous un aspect pseudo-scientifique. Satan utilise des techniques variées qui permettent tout d'abord d'acquérir quelques informations ou quelques connaissances légitimes, mais en les élargissant afin d'acquérir de nombreuses informations interdites. C'est à ce niveau-là que se greffe la divination. Et voici une liste de certaines de ces techniques. Nous avons tout d'abord la graphologie. La graphologie, c'est l'analyse de l'écriture. Certaines réalités peuvent être découvertes par l'examen de l'écriture, comme par exemple le sexe de la personne ou la nature frauduleuse d'une écriture. Toutefois, lorsque un graphologue vous dit par exemple que vous avez été impliqué à l'âge de 11 ans dans un pénible accident qui a provoqué chez vous des troubles dans vos relations avec les autres, alors soyez s'il vous plaît prudent, car il fait alors de la divination. Et la plupart des grandes entreprises font aujourd'hui faire l'analyse graphologie de l'écriture de leurs futurs employés. Malheureusement, de nombreuses églises tombent également dans ce piège. Ensuite, nous avons l'iridiologie. L'iris est la partie centrale de l'œil qui lui donne sa couleur. L'iridiologie prétend de diagnostiquer n'importe quelle maladie du corps simplement en examinant l'iris. Ensuite, il y a la kinésiologie. Il existe une science appelée la kinésiologie, et ce terme dérive du mot grec kinésis, qui signifie tout simplement un mouvement. La kinésiologie est donc l'étude des mouvements du corps humain. Elle étudie les mouvements des muscles impliqués dans les divers mouvements du corps. Mais ce n'est pas de cette science que je voudrais vous parler. Je veux parler d'autres formes de kinésiologie, telles que la kinésiologie appliquée ou la kinésiologie du comportement. Bien que ces disciplines permettent de mieux comprendre le fonctionnement de notre corps, certains de leurs praticiens se sont aventurés bien au-delà des limites de la science. Je veux parler par exemple du diagnostic des maladies par le moyen de tests musculaires. Certains praticiens prétendent même être capables de diagnostiquer la maladie d'une personne absente tout simplement en examinant le comportement musculaire d'un ami présent, d'un ami qui se contente de penser à cette personne, pourtant à des kilomètres de là. Et vous verrez également des livres qui sont écrits sur ces autres formes de kinésiologie, parler de concepts tels que celui d'énergie vitale, de force vitale, de points d'acupressure, de méridiens d'acupuncture, etc. La cytotologie, il s'agit là du diagnostic de toutes les maladies par une prétendue ou un prétendu examen des cellules sanguines. De nombreuses informations peuvent être légitimement obtenues par l'analyse du sang, mais il est impossible de diagnostiquer toutes les maladies en étudiant un seul type de cellules sanguines. Ensuite, il y a la réflexologie. C'est un diagnostic des maladies à partir de l'étude de réflexes. Et nous avons l'hypnose. L'hypnose est fondamentalement une transe démoniaque. C'est donc une violation directe de la sainte parole de Dieu. Le Seigneur nous commande d'amener chacune de nos pensées captives, selon 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, d'être sobre et de veiller, selon la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Alors nous devons toujours être en pleine possession de nos moyens. Dieu nous rend directement responsables de nous-mêmes et de nos pensées. Donc l'hypnose implique la soumission de la personne hypnotisée. Par l'hypnose, eh bien des démons sont toujours introduits dans la personne hypnotisée. Tous ceux qui pratiquent cette technique ont aussi des démons. Les enfants de Dieu doivent donc s'éloigner de ce terrible piège qui a l'air tout à fait harmless, comme on dit en allemand, c'est-à-dire comme si c'était quelque chose de tout naturel. L'acupuncture, cela vient de l'Asie. Elle constitue une partie intégrante de la religion chinoise. Les aiguilles sont prévues pour puiser à la source du chi, c'est-à-dire de l'esprit. L'acupuncture permet d'obtenir une guérison démoniaque. Et ensuite, il y a l'acupression. Elle s'appuie sur les mêmes principes que l'acupuncture. Il y a l'analyse des couleurs. Oh là là, oui. Je ne fais pas référence à cette mode, mais je veux parler de cette théorie où l'on vous dit que certaines couleurs influencent votre niveau d'énergie, etc. Il y a l'analyse des cheveux. Il s'agit du diagnostic des maladies par l'examen des cheveux. Les cheveux sont constitués par une protéine très semblable à celle des ongles. On ne peut pas diagnostiquer de maladie par l'analyse des cheveux si ce n'est une déficience en protéines. Pour une étude approfondie de ces techniques, je recommande un livre intitulé « Healing at any price » également « The Hidden Dangers of Alternative Medicine » le danger caché des médecines douces du docteur Samuel Pfeiffer, World Publishing, 1988. Les jeux. Ah oui, les jeux, c'est moderne, et les jouets occultes ont envoyé aujourd'hui les rayons de nos magasins. Des jeux tels que Donjons et Dragons sont des cours intensifs de sorcellerie. Tous les jeux de rôle font appel à une visualisation intense qui met rapidement les joueurs en contact avec le monde spirituel. Les parents doivent être extrêmement vigilants en ce qui concerne les jouets qu'ils achètent à leurs enfants. Les divers jouets en forme de monstres sont en réalité des reproductions exactes des démons, tels qu'ils se présentent dans le monde spirituel. Les enfants passent naturellement à un stade de leur développement où ils font beaucoup appel à l'imagination et à la visualisation. Il est donc facile aux démons qui ressemblent à ces jouets de contacter les enfants qui jouent avec ces reproductions. Presque tous les dessins animés pour enfants comportent des enseignements occultes. Dans nos écoles publiques, des efforts intenses sont déployés pour former les enfants à devenir des médiums dès les plus petites classes, déjà. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande fortement de vous procurer de lire le livre de Johanna Michelson, Like Lambs to the Slaughter, comme des agneaux à la boucherie. Ce livre est un excellent exposé de la manière dont l'occultisme est enseigné dans nos écoles. Tout parent ayant un enfant d'âge scolaire devrait absolument lire ce livre. Alors, il y a également les arts martiaux, mais on en a déjà parlé assez longuement. Il y a les séances de spiritisme. Il s'agit de réunions spirites pour recevoir des communications provenant des esprits. Il existe de nombreux types de séances spirites, autres que la traditionnelle réunion autour d'un guéridon dans une pièce obscure. Rappelez-vous qu'une séance n'est rien d'autre que l'invocation d'un esprit pour recevoir de lui une communication. Voici aussi d'autres types de séances spirites. Vous avez la planchette Ouija. Ce sont les aiguilles qui se déplacent devant des lettres de l'alphabet et parfois remplacées par un verre. Bloody Mary, la Marie la sanglante. C'est un jeu destiné à des enfants au cours duquel un démon leur apparaît dans un miroir. La méditation effectuée pour parler à un conseiller, entre guillemets, ou esprit guide, comme par exemple dans le contrôle mental Silva et dans bien d'autres techniques. Le catholicisme romain, avec l'invocation des saints et de la Vierge Marie, pour rechercher leur aide. Il y a d'autres portes d'entrée au culte également, telles que le yoga, la méditation orientale, la visualisation et l'imagination ou imagerie guidée, la musique rock, l'utilisation de cristaux, la perception extrasensorielle, la projection astrale, les pactes de sang, quels qu'ils soient, y compris ceux qui sont conclus avec des frères de sang, les sacrifices de toute nature, les idoles de toute nature, les psalmodies et les incantations de toute nature. Chers amis, nous attaquons maintenant la première partie de la délivrance. Nous aurons un prochain CD qui sera la deuxième partie de la délivrance. Comme cette étude est beaucoup trop longue, nous commençons donc aujourd'hui la première partie. Ces études sont dites pour tous les enfants de Dieu qui ont faim et soif d'une relation personnelle et étroite avec le Seigneur. Ils sont pour ceux qui désirent ardemment entendre sa voix dans leur être le plus profond et qui se satisferont de rien d'autre que de l'expérience de sa présence et de sa gloire. Ils sont donc pour ceux qui attachent assez d'importance à une telle relation avec notre merveilleux Créateur pour accepter de payer le prix dans leur vie pour l'établir, c'est-à-dire le prix de la souffrance qui est subie lorsque nous nous chargeons chaque jour de notre croix. Ces études sont donc pour ceux qui luttent pour la sainteté dans l'obéissance à notre bien-aimé Maître Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il est écrit tout d'abord en 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Chers amis, les enfants de Dieu ont désespérément besoin de se réveiller et d'introduire la sainteté dans leur vie. L'Église de Christ professante dans notre monde occidental moderne s'est installée dans une sorte d'évangile de compromis avec le monde. Les Églises sont avides de suivre les doctrines de la prospérité et de la satisfaction des désirs charnels. Personne ne veut payer le prix d'une vie qui serait réellement séparée et sainte. En général, il en résulte que la relation personnelle des chrétiens avec le Seigneur est d'une pauvreté stupéfiante. Combien cela est tragique. Nous vivons vraiment une époque caractérisée par ce que le Seigneur a dit de l'Église de Laodicée. Notez, s'il vous plaît, Die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 3, verset 14, jusqu'au verset 19. Il est dit, « Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu, par contre, être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, eh bien, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, Aie donc du zèle et repens-toi. Apocalypse 3, versets 14 à 19. Voyez-vous le clinquant des stars chrétiennes de la télévision et des spectacles chrétiens a souvent aveuglé les enfants de Dieu quant à leur terrible pauvreté. Les puissantes émotions qui sont provoquées par la répétition de certains cantiques ou par certains types de musique dans beaucoup de réunions chrétiennes ont complètement couvert carrément la voix toujours tranquille du Saint-Esprit qui nous appelle à la repentance et à la sainteté. Je crois que c'est A. W. Tozer qui le résume le mieux dans son livre « À la recherche de Dieu ». Des vies superficielles, des philosophies religieuses creuses, la prédominance de l'élément divertissement dans les réunions évangéliques, la glorification des hommes, la confiance en des formes extérieures de la religion, des communautés quasi-religieuses, des méthodes de représentants de commerce, la confusion entre une personnalité dynamique et la puissance des esprits, ce sont là, avec d'autres choses semblables, les symptômes d'une maladie maligne, d'un dérèglement profond et sérieux de l'âme. Oui, voyez-vous, ceux qui parmi nous ont accepté la grâce de notre Sauveur bien-aimé et son offre de laver nos péchés par son précieux sang qui a été versé sur la croix cruelle du calvaire, doivent éliminer le péché et la souillure de leur vie. Donc, purifions-nous afin de pouvoir devenir des vases d'honneur. Notez Timothée, chapitre 2, verset 21. Le choix nous appartient. Voulez-vous devenir un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil? Une fois encore, la pierre commence à tourner, mais elle s'arrêta une troisième fois, tout aussi soudainement. Les épaules du potier s'affaissèrent en signe de désolation. Et ses yeux fatigués prirent une affreuse expression de dégoût. Alors il désigna avec désespoir une profonde gouge ébréchée qui avait découpé une méchante entaille dans le magnifique gobelet. Il était donc irrémédiablement perdu. Et le potier, puisque nous parlons du potier, avec un geste qui exprimait la frustration et une profonde futilité, le potier écrasa l'argile sur la roue et sur la girelle, et elle devient à nouveau entre ses mains une masse de boue informe formant un monticule sombre sur la pierre. Chers amis, le solide fondement de Dieu reste toujours debout, debout avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît tous ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus, qu'il s'éloigne de toute iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstinant de toutes ces choses viles, il sera un vase d'honneur. Il sera sanctifié, il sera utile à son maître, il sera propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 21. Donc le choix nous appartient. Allons-nous, chers amis, résister au maître et devenir ainsi un vase d'un usage vil? Si nous endurcissons notre cœur et si nous résistons au Saint-Esprit lorsqu'il nous persuade que nous avons besoin de nous purifier, alors nous finirons très certainement par devenir un vase d'un usage vil. Tout ce CD parle de notre purification. Nous devons donc nous purifier nous-mêmes. Et cette responsabilité repose sur nous. L'Écriture sainte nous exhorte sans cesse à nous purifier nous-mêmes. Notez s'il vous plaît 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Il est dit « Ayez donc de telles promesses, mes bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » 2 Corinthiens 7, verset 1. Ensuite, notez Philippiens chapitre 2, verset 12. Il est dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Philippiens chapitre 2, verset 12. Chers amis, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix de nos péchés sur la croix. Mais il est de notre responsabilité de nous saisir de la puissance et de l'autorité qui nous sont offertes au saint nom de Jésus pour purifier notre temple, c'est-à-dire pour nous purifier nous-mêmes. Notez 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Il est dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, et c'est ce que vous devez être, selon ma version allemande. Le Saint-Esprit demeure donc en ceux qui ont fait de Jésus-Christ leur Seigneur, leur Maître et leur Sauveur. Et c'est pourquoi nous devons veiller attentivement à nous conserver purs. Cela signifie que nous devons non seulement cesser de commettre des péchés, mais que nous devons rejeter carrément toute impureté hors du temple, c'est-à-dire en expulser les démons. Plus nous connaissons Dieu et plus nous devenons conscients de notre condition de pécheur, je prie, chers amis, que le Saint-Esprit montre à chacun quelque chose de la majestueuse grandeur de notre Dieu. Notez s'il vous plaît Proverbes chapitre 1 verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbes chapitre 1 verset 7. Voyez-vous, lorsque nous parviendrons à justement apprécier la grandeur et l'absolue sainteté de notre Dieu, avec tout le respect qui lui est dû, c'est alors que nous nous prosternerons face contre terre et que nous crierons « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, ont vu l'Éternel des armées. » Ésaïe, chapitre 6, verset 5. Chers amis, humilions-nous et tombons sur notre face devant notre Seigneur et repentons-nous de tous nos péchés. Veillons soigneusement à nous purifier nous-mêmes afin de devenir des vases dont le Maître pourra se servir. Mais je ne pourrai pas lui plaire si je suis négligent vis-à-vis du péché et si je suis négligent vis-à-vis de tout ce qui profane mon temple, c'est-à-dire moi-même. Donc, si vous avez commis n'importe lequel de certains péchés, vous avez besoin, vraiment besoin, de vous purifier. Je crois que la plupart des chrétiens peuvent se purifier eux-mêmes en ayant recours à la puissance et à l'autorité qui leur ont été données par le Seigneur Jésus-Christ. Ces CD, chers amis, ont été préparés pour que les chrétiens puissent faire exactement cela. Sauf, évidemment, si vous avez été profondément engagé dans l'occultisme. Alors là, vous n'avez besoin de personne pour vous aider à vous purifier vous-même. Mais non, il est donc utile, dans ce cas, d'avoir quelqu'un, peut-être votre pasteur, peut-être votre prêtre, peut-être quelqu'un que vous connaissez, une sœur chrétienne qui est très dévouée et sincère, qui pourra prier avec vous. Mais c'est tout de même vous qui avez besoin de tomber face contre terre devant Dieu, et non pas votre pasteur ou votre prêtre, et de traiter directement, et cela seul avec Dieu. Jésus, c'est lui notre meilleur médiateur. Nous n'avons donc besoin, au fond, nous n'avons besoin de personne d'autre. Alors je vous exhorte à vous purifier vous-même maintenant. Pourquoi pas? Ne tardez pas, car le temps est court. Et je suis absolument convaincu que le retour du Seigneur Jésus est assez proche. Chers amis, pour terminer, avant de prier ensemble, voulez-vous nettoyer votre vase et obéir au commandement de notre Seigneur? Ou voulez-vous persister à être rebelle et à vivre confortablement ou confortablement à votre aise pour devenir un vase d'un usage vil? J'espère que vous ferez le contraire. Je voudrais, avant de prier ensemble, car j'ai reçu dans le cœur, pour vous transmettre quelque chose, pour vous aider, pour vous édifier, mais aussi pour vous encourager. Écoutez bien. Le cœur parle au cœur quand vous venez silencieusement trouver Jésus-Christ qui est disponible et en attente. L'amour alors éveille l'amour. L'air que vous respirez est un air vivifiant et tonifiant. Vous êtes en effet dans son lieu secret pour y goûter le repos. Vous n'êtes pas venu pour lui demander de vous enseigner une doctrine. Oh non, non, non. Telle est, voyez-vous, la base solide et féconde de votre vie spirituelle, et c'est une nécessité. Une fois réfugié dans ce lieu sûr, c'est avec lui, avec votre Sauveur, que vous pouvez élaborer votre vie intérieure jusque dans ces admirables structures qui sont cachées, mais qui sont ouvertes vers le haut. C'est donc un foyer de paix et de joie où nous nous rencontrons pour pouvoir communier. L'aide du Seigneur Jésus-Christ vous sera toujours acquise. Elle est si prompte à venir lorsque vous prenez bien conscience de votre insuffisance propre. Mais elle vous est réellement acquise dans la mesure où vous en arrivez à être sûr, absolument sûr, que dans chaque cas particulier, cette aide est là, toute prête, qui vous attend. Si souvent ses disciples se comportent et agissent comme si c'était que leur prière qui conditionnait son aide et lui donnait sa substance. Même en affaires, il n'en va pas ainsi. Alors mettez-vous à son école. Et c'est avec amour et avec patience que alors Jésus-Christ fera votre éducation. Et maintenant, nous pouvons prier ensemble. Prions. Seigneur, daigne-nous accorder à cette heure de pouvoir élever nos âmes à toi avec recueillement et un respect sincère. Nous te supplions d'avoir pitié de nous, de déceler nos yeux, afin que nous puissions regarder aux merveilles de ta loi, de donner à nos âmes cette vue intérieure qui nous fait découvrir ce que nous sommes devant toi et ce que Jésus-Christ, notre Sauveur, a fait pour nous, indignes et faibles créatures que nous sommes. Que nous puissions nous écrier un jour, « J'étais aveugle, c'est vrai, mais maintenant je vois. » Nous sommes véritablement entourés de ténèbres. Nous sommes aveugles pour nos intérêts éternels. Nous sommes aveugles pour nos défauts, pour les pièges du monde. Nous sommes aveugles pour les bienfaits innombrables de Dieu et pour les vérités de son évangile. Ô Seigneur, aie pitié de nous et daigne par ta puissance nous faire passer des ténèbres à la lumière. Nous te supplions non seulement de nous accorder cette grâce divine, mais de l'étendre à nos parents, à nos amis, pour lesquels nous te prions. Bénis aussi les malades, les affligés. Soutiens tous ceux qui souffrent et ne repoussent pas au Dieu de miséricorde. L'humble prière que nous t'offrons maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Et chers amis, vous le savez, que Dieu vous aime. Oui, et c'est évidemment mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur et de vous demander, prions les uns pour les autres, car les temps deviennent difficiles. Il y a des attentats partout, des kamikazes qui se font sauter, des voitures qui, tout à coup, vous fonce dessus. C'est terrible. C'est pour cela, tenons plus que jamais ferme dans le Seigneur. Approchons-nous toujours davantage de ses vérités. Et donc, maintenant, je vous dis, je vous aime de tout mon cœur. Et je vous enlace avec tout mon amour. Et je vous embrasse tous. Et soyez bénis. Et à demain, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, mes très, très chers amis.